Il est 5h sur Europe 1.
J'adore danser. Je profite du moment parce que après, si jamais on devait être reconfiné, ça me fait du bien physiquement et mentalement.
Juste une dernière danse avant le reconfinement. Cette salle de sport accueille des cours de hip-hop après l'heure du couvre-feu et donc en toute clandestinité. Europe 1 vous le révélait dès le 7 janvier. Sanofi, faute de fabriquer son propre vaccin tout de suite, va produire celui d'un autre labo. On sait depuis hier que ce sera le vaccin Pfizer. Et puis si vous êtes habitué du métro parisien ou du RER, attention au freinage. Pas qu'il soit spécialement brusque, mais à cause des particules fines de pollution qui sont émises à ce moment-là, en plus grande quantité que ce que dit la RATP, selon les mesures d'une association.
À suivre, les sports avec Jérôme Lacroix, notre pressing du jour et puis les doigts dans l'assiette avec nos artisans, nos agriculteurs. Nous serons à Nice aujourd'hui chez notre boulanger.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Danser, se déhancher, se trémousser, à plusieurs en tout cas, c'est une sensation qui relève du passé, tout comme la pratique sportive en club amateur. Mais en période de couvre-feu, tout le monde ne se contente pas de faire des pompes ou des abdos sur le tapis du salon et certains craquent, désobéissent aux règles, estimant qu'ils en ont besoin.
Alors Europe 1, vous avez déjà fait découvrir la salle d'un restaurant clandestin. Eh bien, on trouve aujourd'hui la même chose, mais pour des séances collectives de sport, pourtant interdites depuis le mois d'octobre.
Ouais, c'est ainsi que Théo Manval, moyennant 10 euros, s'est glissé pour Europe 1 dans un cours de hip-hop à Paris hier soir, en dissimulant son micro.
Alors, il est 18h20, on a déjà dépassé l'heure du couvre-feu, et je serai juste à l'heure pour le début du cours. Ce cours de hip-hop, j'ai pu le réserver sur Internet. Dans la salle, face à un grand miroir, on est une dizaine, plutôt des jeunes, face au professeur. Avec la consigne d'arriver juste pour le début du cours, pour ne pas attirer l'œil devant l'immeuble. Une fois en place, on est à moins d'un mètre les uns des autres, mais la choré, c'est non masqué.
J'adore danser. Je profite du moment parce que après, si jamais on devait être reconfiné, c'est aussi un peu un échappatoire parce que quand je danse, bah, je pense plus au Covid. Ça me fait du bien physiquement et mentalement.
Et elle semble en avoir besoin, ma voisine étudiante, plutôt douée, même si on est loin d'être tous des danseurs pros, hein, autorisés, eux, à répéter sur attestation. D'ailleurs, je n'en ai pas, moi, d'attestation, mais semble-t-il, ça peut s'arranger.
La semaine prochaine, si tu viens, envoie-moi 500 euros pour WhatsApp et on va t'envoyer l'attestation.
C'est une attestation du studio qui dit que c'est un déplacement pour tournage de vidéo.
Professionnel.
Oui, voilà.
Moi qui maîtrise à peine 5 ou 6 mouvements après une heure à me déhancher. Allez, vient le moment de se quitter. La bise n'a pas totalement disparu ce soir. À la différence des contrôles de police.
Reportage signé Théo Manval pour Europe 1.
C'est donc une confirmation de ce qu'Europe 1 vous avait révélé il y a près de 3 semaines. Alors que Sanofi ne livrera qu'à la fin 2021 les premières doses de son propre vaccin, bien d'ici là, le laboratoire va servir de sous-traitant à l'un de ses rivaux.
Oui, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech qui a été choisi, annonce faite hier. Emmanuel Duteil, dans le secteur ultra concurrentiel de la pharmacie, cette démarche est assez extraordinaire.
Oui, hein. Imaginez, c'est un peu comme si Pepsi acceptait de produire du Coca parce que le lancement de son dernier soda prenait du retard. Là, concrètement, Sanofi va produire dans son usine de Francfort en Allemagne des vaccins Pfizer-BioNTech. Alors pourquoi cette usine? Eh bien tout simplement parce qu'elle se situe à côté du siège de BioNTech. La production va débuter en juillet et Sanofi devrait pouvoir fournir comme ça plus de 100 millions de doses d'ici à la fin de l'année. Ces doses sont destinées à l'Union européenne, donc d'une certaine manière à la France. La direction de Sanofi le reconnaît face à une telle crise. On doit le faire, on ne doit pas avoir de regrets. Cette décision tombe en tout cas à pic au moment où il y a des doutes sur la capacité d'AstraZeneca à fournir tous ces vaccins. Quant à celui de Sanofi, il devrait arriver au mieux au 4e trimestre. Mais la direction de Sanofi l'assure, on est confiant dans ce vaccin. Pour le patron monde de Sanofi, ce vaccin pourrait même être plus efficace contre les mutations du virus.
Les explications d'Emmanuel Duteil, le chef du service économie de la rédaction d'Europe 1. A noter que le patron de Sanofi France, Olivier Bogilio, sera ce soir sur Europe 1 l'invité du 18-20 de Julien Bugier.
Deux chiffres ce matin sur notre consommation de viande bovine. Elle a baissé au global en 2020, moins 2,3% sur le début de l'année. Mais pour ce qui est de la viande bovine française, là c'est en revanche dans le vert. Plus 1,6%. Nous n'allons plus au resto, mais nous faisons un peu plus attention à l'origine du bœuf que nous cuisinons à la maison. Les bouchers, comme celui rencontré à Paris par Jean-Jacques Herry, s'en sortent donc plutôt bien dans cette période pourtant délicate.
Se mettre à son compte en pleine pandémie, c'est a priori risqué. Pourtant, Damien Lefebvre n'a pas hésité une seule seconde à reprendre la boucherie La Belle Bête, rue Oberkamp.
Je me suis vite rendu compte qu'on était quand même un secteur essentiel, la viande, parce que là où j'ai travaillé avant, j'ai pas arrêté de travailler pendant le confinement. Et c'est vrai qu'on travaille plutôt bien, parce que malheureusement, il y a les restaurants qui sont fermés. Donc forcément, les gens cuisinent beaucoup plus chez eux. Donc nous, on vend plus de viande, forcément.
Et en ce début 2021, la chambre froide de La Belle Bête est remplie de carcasses.
On va vendre de viande et plus on va en acheter, c'est logique. Moi, mon bœuf, c'est de la race partenaise, donc il vient des Deux-Sèvres. Après, toute la viande que j'ai aussi, c'est du français.
Du bœuf français dont les ventes sont en hausse, plus 1,6%, alors même que le marché global de la viande bovine, lui, est en baisse. Autrement dit, le bœuf étranger que l'on consommait au restaurant d'entreprise, il est maintenant remplacé à la maison par un steak français et aussi, très souvent, haché, reconnaît Clara, une cliente.
Les enfants mangent un peu moins souvent à la cantine. C'est quand même pas mal de profs qui sont absents, donc ils rentrent le midi et donc on va essayer de choisir la facilité, donc steak haché, pour qu'ils se fassent à manger tout seuls.
Bref, à la maison, on ne privilégie pas toujours les morceaux nobles, une tendance qui devrait se confirmer si un troisième confinement devait avoir lieu.
Le reportage de Jean-Jacques Herry à Paris et à 5h40 tout à l'heure, mon invité Emmanuel Bernard qui préside la section bovine d'Interbev, l'association qui représente toute cette filière viande.
Nous retournons dans la vallée de la Roya, 4 mois après la tempête Alex qui avait défiguré des villages, coupé des routes et des ponts. L'histoire se répète avec les fortes pluies de vendredi dernier. La route vers la commune de Tende a été de nouveau endommagée.
Des travaux de consolidation ont été entrepris et les convois ont repris pour desservir cette ville où s'est rendu Frédéric Michel. Pour Europe 1.
Ce week-end, on a eu peur quand même. Hein.
Jean-Marc tient le tabac de Tende, l'un des rares commerces encore ouverts dans la commune.
Il y a eu des passages à guets qui sont partis. Ça a été quand même très très vite réparé. Hein.
Les deux passages à guets emportés par la force des eaux ont été remis en état, mais les habitants vivent dans l'angoisse de nouvelles pluies.
C'est pas rassurant. Il va y avoir un fond des neiges, ça risque de se reproduire.
À chaque pluie, on a peur. À chaque pluie, on se dit on ne va plus avoir de route. Il nous faudrait vraiment des ponts un peu costauds. Quoi.
Jean-Pierre Vassallo, le maire de Tende, sait que la reconstruction prendra du temps, mais s'exaspère de ne voir que des solutions provisoires.
Il faut maintenant construire des ponts, plus de passages à guet, qu'on puisse commencer à revivre normalement. Vous avez vu, jusqu'à la mi-mars, on n'aura pas un train et ça devient vraiment pénible.
Le préfet chargé de la reconstruction des vallées dit comprendre l'impatience des habitants de la Roya, mais Xavier Pelletier prévient, pas question de brûler les étapes.
La reconstruction, elle ne sera pas instantanée, elle prendra énormément de temps. Elle nécessite des études. On est sur un territoire de montagne, il y a énormément de paramètres à prendre en considération, la topographie est compliquée. On a encore des glissements de terrain, des sols qui s'affaissent. Entre Libre dans la vallée et Tende, on a 90 ruptures de voies.
Et les travaux devraient coûter 1,5 milliard d'euros. Tende, Frédéric Michel, Europe 1.
Il est 5h08 sur Europe 1. Y a-t-il eu mensonge ou sous-estimation ? La pollution de l'air dans les stations de métro et de RER à Paris est préoccupante et bien plus élevée que les chiffres fournis par la RATP, selon l'association Respire.
Elle a fait réaliser des mesures par un labo du CNRS et la pollution mesurée est jusqu'à 10 fois plus élevée que dans la rue. Les détails avec Virginie Salmen.
C'est dans les stations de RER que la pollution est la plus élevée, probablement parce que les trains sont plus gros et émettent plus de particules au freinage. Le directeur de recherche au CNRS, Jean-Baptiste Renard, s'est posté sur les quais avec son appareil portatif. Il a relevé des concentrations de particules fines et ultra fines, très variables en fonction de la profondeur de la station, de l'aération, de l'heure, avec des niveaux parfois très élevés.
Par exemple, Gare de Lyon, quand le RER arrive, on entend vraiment le freinage très fort et d'un seul coup, on voit une augmentation de la pollution d'un facteur 10 en quelques secondes.
La RATP a des capteurs de pollution de l'air actifs dans 2 stations de métro actuellement. Pour Olivier Blond, président de l'association Respire, c'est loin d'être suffisant.
La RATP, aujourd'hui, ne se donne même pas les moyens de mesurer sérieusement la pollution de l'air, alors que c'est pas très compliqué. Si même une petite association comme Respire a réussi à le faire, évidemment la RATP pourrait le faire. La situation dans les stations de RER, elle est particulièrement inquiétante. On atteint des niveaux de 500 microgrammes par mètre cube. C'est ce qu'on trouve à Pékin ou à New Delhi.
Parmi les solutions, un changement du système de freinage des trains ou encore des aspirateurs à particules au plus près des voies.
Le reportage de Virginie Salmen, la spécialiste environnement d'Europe 1. Et puis je voulais vous donner cette information qui concerne l'armée américaine. Les cheveux longs sont désormais autorisés. Et ce, pour mieux refléter la féminisation et la diversité dans les rangs de l'US Army. Alors notez bien, pour une femme militaire, le chignon lisse, jusqu'ici obligatoire, laisse désormais la place à une queue de cheval, si la personne a les cheveux lisses, ou si ses cheveux sont frisés ou crépus, à des tresses qui peuvent être ramenées, c'est précis, qui peuvent être ramenées sur le côté. montée ou sur le haut de la tête.
Ah oui, c'est extrêmement précis, extrêmement encadré. On n'est pas encore sur les cheveux longs
relâchés, etc.
Bon, c'était le journal de France à Geffrier, 5h10 sur Europe 1. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On entendait tout à l'heure Charlie Dalin qui disait qu'il ne se souvient même plus à quoi ressemble la vie sur Terre. Mais ça y est, les marins vont revoir les côtes assez vite.
C'était 80 jours qu'ils ont pris la mer et le retour au Sable d'Olonne, c'est pour aujourd'hui, en tout cas pour les premiers de la course. On attend en début de soirée l'arrivée du premier marin du Vendée Globe, le Tour du Monde à la voile en solitaire. C'est inédit cette année, 40 000 km parcourus et 5 skippers peuvent encore franchir la ligne d'arrivée en premier. Alors, vous le disiez, Charlie Dalin, qui est toujours en tête ce matin, suivi de très près, 90 km, par Boris Herrmann, l'Allemand, et Louis Burton. Ces deux-là ont creusé un tout petit écart sur le duo Thomas Ruyant-Yannick Bestaven. Le suspense reste entier. Et dans les têtes, c'est un drôle de mélange d'émotions, confie Benjamin Dutreux, le 9e du classement.
Ils sont assez particuliers, je trouve, ces derniers jours de course, parce qu'on est avant le retour à la civilisation, là, et il y a un mélange de hâte d'arriver et hâte de retrouver tout le monde, etc. Et en même temps, je me rends pas du tout compte qu'on est parti 3 mois et j'ai l'impression de pas être le même marin du départ, en fait.
Et n'oublions pas que le navigateur qui franchira ce soir la ligne d'arrivée en premier ne sera pas forcément le vainqueur final. Certains, comme Boris Herrmann et Yannick Bestaven, se sont vus accorder des bonifications de temps après s'être dérouté pour le sauvetage de Kevin Escoffier.
Bon voilà, on saura la nuit prochaine, qui est le vainqueur de ce Vendée des Globes. Une arrivée qui finalement ne sera pas tout à fait à huis clos.
Pas tout à fait, non. 300 bénévoles masqués à 4 mètres les uns des autres ont été autorisés à se rendre le long du chenal de l'arrivée au sable, histoire d'applaudir et de saluer l'exploit de ces marins que constitue le bouclage d'un Vendée Globe. Le joli tir groupé du ski français hier soir sur la piste autrichienne de Schladming, place très forte du slalom mondial. Deux bleus sur le podium de cette manche de Coupe du Monde, Clément Noël 2e et Alexis Pinturo 3e. Course remportée par l'Autrichien Marco Schwartz. Les Français qui ont fait honneur à leur compatriote Julien Liseroux, 41 ans, en fin de carrière, il a effectué hier sa dernière descente. Le jour même où sa compagne Tessa Worley remportait, elle, en Italie, le géant de Kronplatz, plus de 2 ans après sa dernière victoire.
L'autre rendez-vous sport du jour, c'est le handball.
20h30, France-Hongrie au Caire pour une place en demi-finale du mondial. Des Bleus qui ont tout gagné pour l'instant dans la compétition, 6 victoires. Ils sont prétendants au titre mondial et pour franchir l'obstacle hongrois, Valentin Porte a bien potassé ses fiches.
Il y a beaucoup de gros gabarits, avec beaucoup de puissance à longue distance. Donc il va falloir s'adapter avec un pivot qui pour moi est peut-être un des meilleurs pivots au monde actuellement et qui domine à son poste. Donc il va falloir s'adapter parce que c'est complètement différent du Portugal par exemple qu'on vient de jouer.
Valentin Porte, joint par Axel May, France-Hongrie, quart de finale du mondial de handball en Égypte, coup d'envoi 20h30. Le foot et chaud derby hier soir à Milan entre l'Inter et l'AC Milan. Zlatan Ibrahimovic a été exclu pour 2 cartons jaunes après plusieurs montées de tension et invectives même avec l'attaquant interiste belge Romelu Lukaku. L'Inter qui a finalement gagné 2-1 ce quart de finale de Coupe d'Italie.
Le chiffre du jour.
1. Il sera resté au chômage 1 mois à peine. L'entraîneur allemand Thomas Tuchel, limogé il y a peu du Paris Saint-Germain, a déjà retrouvé un club. Chelsea à Londres, 10e du championnat anglais. Il s'est engagé pour 18 mois.
Voilà, il rebondit déjà Thomas Tuchel.
Il paraît qu'il était déjà en négociation avec Chelsea avant même d'être chez PSG.
Jérôme Lacroix, merci, à tout à l'heure. Et il nous reste à découvrir le pari gagnant du jour avec vous Thierry Léger, bonjour.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 207 Impitoyable. À peine âgé de 2 ans, ce poulain bien né, issu de l'étalon brillantissime et de la poulinière Charmeuse des Bois, va effectuer des débuts très attendus par son entourage. Je sais qu'il plaît beaucoup à son entraîneur belge Vincent Martens, particulièrement bien armé dans cette jeune génération. Et s'il répète cet après-midi ce qu'il réalise depuis plusieurs semaines le matin à l'entraînement, n'allez pas chercher plus loin le gagnant. Notez bien, pour cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, réunion 1, dans la 2e course, le numéro 7, Impitoyable.
Merci Thierry Léger, on vous retrouve tout à l'heure dans une vingtaine de minutes pour vos pronostics du quintet du jour. À tout à l'heure.
Europe 1.
5h15 sur Europe 1, très bon réveil. Nous ouvrons ensemble les journaux avec toute l'équipe du 5-7 en direct. Paul Lassen, Omblin Roche. Omblin, vous, qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse?
La Croix qui publie son 34e baromètre de confiance dans les médias. Une enquête réalisée alors qu'en 2020, l'épidémie de Covid-19 s'est retrouvée en 306 jours sur 365. Imaginez-vous, l'an dernier, on n'a jamais autant écouté, lu, regardé les médias pour s'informer sur le virus, la pandémie, ses conséquences.
Et on vous dira quel type de média est considéré comme étant le plus crédible. devinez, c'est la radio. Allez, la suite dans quelques secondes. Et je vous présenterai aussi ce projet un peu fou, vous allez voir, du navigateur Yvan Bourgnon. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h16 sur Europe 1, le Royaume-Uni passe la barre des 100 000 morts du Covid. C'est le pays d'Europe au plus lourd bilan. Je suis profondément désolé pour chaque vie perdue. Et bien sûr, en tant que Premier ministre, j'assume la pleine responsabilité, commente Boris Johnson. Sanofi produira à Francfort des doses du vaccin développé par son concurrent Pfizer et BioNTech. Plus de 100 millions de doses destinées à l'Union européenne et qui sont fabriquées d'ici à la fin de l'année. Et puis le retour de l'affaire Grégory devant la justice. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon doit dire aujourd'hui si elle accepte la demande des parents. Des nouvelles expertises ADN plus de 36 ans après la mort du petit garçon.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec autour de moi Omblin Roche et Paul Lassen. On commence par notre coup d'œil quotidien aux unes de vos journaux et toujours des interrogations sur les mesures sanitaires à venir, à prendre. Le Parisien tente de faire les comptes de ce que coûterait un reconfinement avec plusieurs scénarios possibles. Macron veut se donner du temps, explique le Figaro, alors que la contestation monte à travers l'Europe. Photo de ces manifestations aux Pays-Bas, un peu partout. Le virus de la défiance, titre Libération avec ce chiffre, 57%. Près de 6 Français sur 10 ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour les sortir de la crise sanitaire. L'acceptabilité des mesures, sujet soulevé aussi par La Provence. Pourquoi il est si compliqué de confiner une troisième fois, résume Ouest France. Vos journaux mettent aussi à la une les enseignants qui sont en colère, qui ont manifesté hier le Midi Libre ou le Courrier Picard. Enfin, Nice ce matin met à la une le premier patient atteint par le variant anglais. Premier patient détecté sur la Côte d'Azur avec ce titre « Super contagieux ». Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Et Amblin, on commence donc par ce baromètre annuel que publie le journal La Croix et qui mesure la confiance des Français dans les médias.
Eh bien, entre les médias et les Français, ça va mieux. Un tout petit peu mieux, mais mieux quand même. Voilà ce que nous dit ce baromètre, c'est que l'an dernier, on n'a jamais autant écouté, lu, regardé les médias. 7 Français sur 10 se sont tenus informés. Alors on est resté collés à la radio, à la télé, le nez dans les journaux pour essayer de comprendre l'épidémie, mais en se disant quand même qu'on était en train de parler beaucoup trop de l'épidémie du Covid-19. C'est pas le seul paradoxe, il y en a plusieurs. 3/4 des Français jugent que les médias se sont trop étendus sur le virus et ses conséquences. Ils considèrent aussi que les journalistes ont dramatisé les événements. Autre paradoxe, 64% des personnes interrogées reconnaissent que les médias leur ont permis de comprendre la situation. Et en même temps, les Français sont très divisés sur la façon dont les médias ont couvert l'épidémie. 43% la jugent maltraitée, 44% la jugent correctement traitée. Voilà, c'est presque une égalité. En fait, la presse en général s'est retrouvée devant une difficulté majeure, pouvoir satisfaire une demande immédiate de réponse sur le virus, ce qui a favorisé la propagation d'intox et de théories complotistes. 34% des Français se sont tenus informés sur Internet. La télé reste le média le plus suivi, presque un Français sur deux. Ils sont 14% à avoir écouté la radio, 5% à avoir lu les journaux. Alors, ce qui est rassurant,
5% seulement à avoir lu les journaux papier.
La presse, la presse écrite, que 5%, c'est toujours en baisse. Ce qui est rassurant, on l'a dit avant la pub, c'est que dans ce contexte, la relation s'améliore entre les Français et les médias, la crédibilité est légèrement en hausse. À l'inverse des audiences, finalement, eh bien c'est la radio qui reste le média le plus crédible, selon un Français sur deux, suivi de la presse écrite, elle est lue que par 5% des Français. Pourtant, c'est l'un des médias les plus crédibles. Ensuite, il y a la télévision et puis Internet. Les Français semblent avoir plus confiance aussi dans les journalistes, même si 63% pensent toujours qu'ils ne sont pas indépendants des pouvoirs politiques. 63% quand même, pensent que les journalistes ne sont pas indépendants, c'est énorme. Le baromètre de confiance dans les médias est publié par La Croix, il y a 6 pages, il y a plein de graphes, il y a plein de
schémas.
Vous
disiez dans les paradoxes, effectivement, on ne consulte pas ou on n'écoute pas forcément les médias qu'on juge les plus crédibles.
Voilà.
Puisque 28% seulement jugent crédible Internet, mais beaucoup évidemment d'entre
regarde
nous s'informent
Internet.
Grâce à Internet. 52%, voilà, plus 2% en 2020, 52% des Français jugent la radio média le plus crédible. Voilà, on va quand même garder les
complet.
Bonnes nouvelles
dans, oui, ce, c'est ça.
Dans ce baromètre donc, qui est publié à la une de La Croix aujourd'hui. Alors en ce jour d'arrivée du Vendée Globe, je voulais vous parler d'un grand marin un peu fou et de son nouveau projet. Ce marin, c'est Yvan Bourgnon, 47 ans, qui reste le seul à ce jour à avoir accompli le tour du monde sur un catamaran de sport sans GPS, à la boussole.
À l'ancienne.
C'est autre chose que le Vendée Globe, ils ont quand même des outils. Alors, le seul aussi à avoir emprunté le passage entre l'Alaska et le Groenland à bord de ce même catamaran. Voilà pour les exploits passés, mais son plus grand défi, peut-être son projet actuel. Créer un bateau-usine qui nettoierait les océans de ces déchets plastiques. On sait qu'ils en sont envahis avec toutes les conséquences écologiques qu'on connaît. Alors, c'est aujourd'hui en France qu'il nous détaille ce bateau du futur, le Manta, un catamaran de 56 mètres de long, 26 de large, avec des voiles de 60 mètres de haut. Et sur le pont, éoliennes et panneaux solaires. Particularité, à l'intérieur, c'est une usine de recyclage des plastiques. Ce bateau est capable non seulement de repêcher les plastiques dans l'eau, 1 à 3 tonnes par heure, mais de les transformer aussi en énergie pour faire avancer le bateau. Alors, les déchets sont broyés, puis ensuite portés à haute température et par pyrolyse transformés en gaz, ce qui alimente l'électricité du navire et ce qui rend le bateau en partie autonome. Alors, ce bateau, il n'est pas encore construit, hein, bien sûr. Yvan Bourgnon a déjà levé 13 millions d'euros sur un budget de 35. Et donc, vous verrez dans Le Parisien et dans Aujourd'hui en France, aujourd'hui, les maquettes et les visuels de ce navire un peu futuriste. Alors, le projet n'emballe pas forcément tous les spécialistes, hein, parce que déjà le problème ce sont les microplastiques, sont minuscules, qui se désagrègent très vite dans l'eau, donc cela ne pourrait pas être ramassé. Et puis selon Isabelle Autissier, elle-même navigatrice, qui préside aujourd'hui le WWF, c'est pas forcément le bon message, parce que ça peut laisser entendre que puisqu'on nettoie,
on peut
continuer à polluer. Pour elle, il faut s'attaquer surtout à la racine du mal, supprimer les plastiques. 9 à 12 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans. Le Manta, lui, peut en ramasser, mais quantité évidemment infime. Donc de toute façon, ça ne suffirait pas. Mais allez voir quand même les maquettes, parce que c'est futuriste. C'est innovant, c'est un beau projet.
Il faut faire des
ambitions. Toujours nettoyer par ailleurs, mais effectivement, traiter le mal à la racine serait quand même la solution.
Mais c'est bien de faire des petits pas, déjà reconnaître les petites victoires avant de gagner la bataille.
Il lui faut 35 millions d'euros, on n'y est pas encore.
Non.
Paul, on termine avec vous et on va aux États-Unis.
Oui, le Wall Street Journal qui donne une solution à tous ceux qui craignent pour leur facture d'électricité pendant l'hiver. Alors, il fait froid. Dans ce studio, encore plus, je ne l'apprends à personne. Et le quotidien américain nous raconte l'histoire de Dan Van Der Ster, ingénieur, et qui, malgré les températures négatives, a beaucoup trop chaud dans son appartement. Et ce, bien qu'il ait drastiquement baissé son chauffage au gaz. Alors, la question à 1 million d'euros, comment est-ce possible? Eh bien, il utilise activement son ordinateur pour créer de la crypto-monnaie, des bitcoins, et jouer à des jeux vidéo avec son fils. Et ça réchauffe l'appartement, et visiblement, c'est pas le seul à avoir cette idée outre-Atlantique. De plus en plus de gens profitent de la chaleur qui est dégagée par l'ordinateur pour éteindre les radiateurs. Alors, le Wall Street Journal en raconte un autre exemple, celui d'un photographe qui a même aménagé une mini-serre dans son garage qu'il chauffe uniquement grâce à la création de Bitcoin. C'est tellement efficace qu'il y cultive des tomates et des herbes aromatiques et ça marche tellement bien qu'il veut, dans son patio, créer un poulailler. Voilà, rien que ça. Mais le Wall Street Journal précise que ça chauffe tellement bien, que c'est tellement efficace, qu'il a peur que ses futures volailles crèvent de chaud. Voilà, donc au-delà de ces deux histoires un peu anecdotiques, le journal précise que la chaleur dégagée constitue aussi une formidable opportunité quand on arrive à la récupérer. Le Wall Street Journal prend l'exemple d'une start-up française, Quernote Computing, qui a développé des radiateurs numériques. C'est-à-dire que c'est des radiateurs qui utilisent la chaleur des centres informatiques pour chauffer les bureaux et les appartements. Et cette société dit que ce procédé permet de dégager 1200 euros de revenus par an en générant des bitcoins, tout en réduisant sa facture de chauffage. Voilà, donc jouer aux jeux vidéo.
Ce sont les ordinateurs qui chauffent.
Oui,
les
absolument.
Ordinateurs qui chauffent les pièces.
Voilà. Jouer aux jeux vidéo, créer du bitcoin, ça fait chauffer les ordinateurs et ça permet de réchauffer votre maison. C'est le bon plan de cet hiver. C'est à lire dans le Wall Street
Journal. Il faut avoir des machines spéciales.
Pas forcément. Pas forcément.
Si c'est à distance.
Voilà. Non, mais typiquement, si vous avez l'habitude de jouer sur votre ordinateur aux jeux vidéo, vous vous rendez compte que très vite, votre ordinateur chauffe et avec des spécialités à mettre en place, évidemment. Ce n'est pas avec votre
système. Un système qui récupère la chaleur.
Ce n'est pas votre seul PC dans votre grand salon. qui vous suffira à chauffer tout votre appartement.
Mais ça pointe un vrai paradoxe dans les immeubles où on héberge tous ces serveurs qui hébergent tous nos emails, etc. Voilà.
Mais il faudrait se servir de cette situation.
On climatise les pièces qui sont elles-mêmes chauffées par des ordinateurs sans récupérer la chaleur. Enfin, voilà, c'est un pas. Voilà,
mais encore peut-être une solution à développer.
Ça prend plus la queue totalement. Donc voilà, récupérer la chaleur des ordinateurs, c'est un vrai enjeu. Merci à tous les deux, c'était le pressing du jour, 5h25.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et c'est l'heure des doigts dans l'assiette, et lui aussi il est bien chauffé, je pense, c'est notre boulanger Frédéric Roy à Nice. Bonjour à vous.
Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs.
Je dis bien chauffé parce que vous êtes évidemment à cette heure-là dans votre fournil.
Ça va, on risque pas d'attraper le rhume, on est bien, à cette heure-ci, le four est bien chaud, bien rempli, et on le chauffe pas avec les ordinateurs, hein, on le chauffe et...
Bien sûr. Alors, on vous retrouve régulièrement dans les odeurs de croissant et de pain au chocolat. Qu'est-ce que vous préparez de beau en ce moment?
Voilà, tiens, ça y est, on a fini dimanche les galettes, donc on va démarrer maintenant nos préparations de chocolat, d'entremets et autres pour la Saint-Valentin qui aura lieu d'ici une quinzaine de jours.
Ah, la Saint-Valentin. Alors, on passe d'une actualité à l'autre. Hein. Terminez la galette, la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous préparez pour la Saint-Valentin?
Alors là, moi, comme il me reste 15 jours, je vais préparer des petits ballotins de chocolat en forme de cœur. Mais dans les 2-3 jours qui vont précéder la Saint-Valentin, tout ce qui est gâteau, sablé va être en forme de cœur. Et chaque année, on essaye de faire une spécialité. Donc cette année, on va travailler sur un mini entremets pour deux personnes, évidemment pour les amoureux, qui va être sur une base d'un sablé croquant avec une petite crème au praliné caramel et recouvert de rocher amande. Donc ça devrait pas être mauvais,
pas mal.
Ça devrait plaire. Mais au-delà de ça, moi j'adore la Saint-Valentin. C'est pas parce que c'est une fête commerciale ou autre, ça je m'en fiche. C'est de voir tous ces amoureux qui viennent au magasin, qui viennent acheter, qu'ils soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux, acheter un petit gâteau pour le manger en amoureux. Je trouve ça formidable. Surtout en ce moment, dans la période où l'on vit des petits plaisirs tels que ceux-là, je trouve ça royal.
Voilà, il faut se faire plaisir. Faut se faire plaisir. Les chocolats,
absolument.
Vous les faites vous-même aussi?
Absolument, on fait nos chocolats. Oui, on essaye de tout fabriquer, comme toujours. Hein. C'est le but, de faire du fait maison, de rester sur nos traditions, sur nos fabrications. Ce qui vous permet d'évoluer, de modifier, de changer des recettes. C'est ça l'artisanat, c'est pouvoir se faire plaisir tout en faisant plaisir aux autres.
Voilà, pouvoir se faire plaisir. Alors attendez, entre-temps, quand même, il y a la chandeleur, là, ça arrive la semaine prochaine. Vous faites des crêpes quand même un peu?
Oui, on fait un peu de crêpes et puis on va voir aussi les beignets carnaval tout de suite derrière aussi, puisque tout ce qui est beignet, enfin carnaval à Nice cette année, ça va être compliqué, mais les beignets carnaval seront quand même, ainsi que les oreillettes en vente au magasin, évidemment. Mais bon, en fait, dans notre métier, presque toute l'année, il y a toujours des plats qui vont avec les saisons, hein, donc on s'ennuie jamais, on peut toujours évoluer, on peut toujours faire plaisir en travaillant, il y a toujours quelque chose à faire.
Il y a toujours quelque chose à faire et de quoi innover aussi, parce que on vous connaît, vous cherchez toujours la petite recette supplémentaire, le petit plus.
Ben ouais, vous voyez, cette année, je voulais créer un croissant au citron pour la fête du citron de Menton, avec des citrons de Menton. Donc, on travaille dessus. Alors, je ne sais pas si je le sortirai cette année ou si j'attendrai la fête du citron l'année prochaine. Mais oui, effectivement, on essaye de travailler des spécialités avec des arômes particuliers. C'est toujours un plaisir de travailler sur des nouveaux produits, parce qu'on les voit évoluer de jour en jour pour arriver précisément au goût, aux saveurs qu'on recherche. Donc, c'est vraiment très plaisant.
Voilà, le travail de l'artisan aussi, c'est important de le mettre en valeur et c'est ce qu'on fait chaque matin avec nos artisans, nos agriculteurs. Merci à vous Frédéric Roy, bon courage pour la suite, une très belle Saint-Valentin à vous-même.
Et à bientôt. Une petite suggestion. Un jour, ça serait intéressant qu'on puisse se parler en visuel. Alors, je ne sais pas si c'est possible avec la page Facebook ou autre d'Europe 1, mais ça serait bien qu'on leur soumette parce que ça serait peut-être plaisant de nous voir la nuit dans le fournil ou dans une ferme.
On peut tout à fait faire ça, notamment poster une petite vidéo sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi tout à fait se faire. N'hésitez pas à nous envoyer une petite vidéo. On la mettra sur le site d'Europe 1. Avec grand plaisir, Frédéric. À très bientôt dans les doigts dans l'assiette.
Merci beaucoup.
À bientôt. On va retrouver Laurent Cabrol pour la météo.
Je vous l'ai dit, c'est une journée particulièrement désagréable avec tous les ingrédients hivernaux qui sont là, qui sont afférents et qui nous donnent une circulation extrêmement difficile ce matin. Alors le verglas, grosso modo, des Ardennes à la Haute-Marne jusqu'à pratiquement l'Auvergne. Les pluies sont plutôt présentes près de l'Atlantique. Et de la neige très 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 présente, elle, sur les Alpes du Nord. Voilà, et même à basse altitude. Et puis un brin de soleil sur le bassin méditerranéen. Le tout avec des vents de nord qui rafraîchissent encore l'atmosphère, si je je puis dire. Les températures cet après-midi commencent tout de même un petit peu à monter en raison du changement de temps qui va s'opérer demain. Mais nous n'aurons que 7 degrés à Besançon, 10 degrés à Lille, 11 degrés à Paris demain dans l'après-midi, 12 degrés à Rennes et La Rochelle, 13 à Bordeaux et 16 degrés à Montpellier.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bon réveil et bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Tout de suite, votre journal. Bonjour Hélène Zellani.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Je viens parce que ma frange a poussé et en fait j'ai pas envie de me retrouver moche et déprimée pendant le confinement face à mon miroir.
Pas d'annonce prévue cette semaine, pourtant certains d'entre vous anticipent un confinement en allant chez le coiffeur par exemple. Les remontées mécaniques ne rouvriront pas pour les vacances de février, résultat des saisonniers sur le carreau. Non seulement ils n'ont pas de travail, mais en plus ils ne touchent pas le chômage partiel, nous serons à la plagne. L'affaire Grégory peut-elle connaître un nouveau rebondissement 36 ans après ? La justice dira aujourd'hui si elle autorise de nouvelles expertises ADN demandées par les parents du petit garçon. Et puis nous irons au PC course du Vendée Globe au Sable d'Olonne où on attend les premières arrivées ce soir.
Nous mangeons moins de viande, mais plus de viande française. Les confinements ont bousculé nos habitudes et nos comportements de consommateurs au bénéfice du produit en France. Et on va s'arrêter sur ces enseignements juste après le journal avec mon invité Emmanuel Bernard qui préside la section bovine d'Interbev. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les Français dans l'expectative, troisième confinement ou pas, le Conseil de défense prévu ce matin ne devrait pas prendre de décision. Emmanuel Macron veut en savoir plus sur les effets du couvre-feu et sur l'évolution du variant anglais. Et dans cette attente, on anticipe notamment chez le coiffeur.
Oui, au sein du groupe Provalliance par exemple, qui regroupe notamment Franck Provost, Jean-Louis David ou encore Saint-Algue, on a doublé le nombre de rendez-vous en une semaine. C'est le cas par exemple dans ce salon parisien où s'est rendue Élise Dangean.
Je peux être confinée, je suis tranquille, je serai bien coiffée.
Pas un cheveu qui dépasse, une nouvelle couleur flamboyante et un large sourire sur le visage. Maude est armée pour un éventuel troisième confinement. C'est aussi ce qu'est venue chercher Cécile. La jeune avocate a d'ailleurs préféré avancer son rendez-vous de quelques jours.
Par mesure de précaution pour ne pas être coincée et avoir des cheveux blancs pendant un mois et demi.
C'est un peu le mot d'ordre. Ici, on ne prend plus aucun risque avec ses cheveux. Colombe, 19 ans, a bien retenu la leçon.
Je viens parce que ma frange a poussé et que pendant le deuxième confinement je l'ai coupé toute seule parce que je pouvais pas sortir. Là ça a bien un trou. J'ai utilisé mes ciseaux de cuisine parce que j'ai pas de ciseaux de coiffeur. Et en fait, j'ai pas envie de me retrouver moche et déprimée pendant le confinement face à mon miroir.
Alors, tous les moyens sont bons, raconte Marie, la manager du salon.
Les personnes nous appellent, elles nous supplient, mais juste la couleur, on repart les cheveux mouillés, c'est pas grave, il faut me le faire cette semaine, voilà.
Mais pas facile de satisfaire tout le monde, qui plus est en période de couvre-feu. Le salon a beau ouvrir 30 minutes plus tôt le matin, ça ne peut pas compenser les deux dernières heures de la journée.
Élise Dangean, 500 000 nouveaux créneaux de rendez-vous pour la vaccination devaient être ouverts hier. Ils sont finalement reportés à vendredi à cause de la baisse des livraisons de Pfizer. Pfizer BioNTech qui va recevoir l'aide de Sanofi pour ses vaccins. Comme Europe 1 vous le révélait dès le 7 janvier, le labo français devrait conditionner plus de 100 millions de doses destinées à l'Union européenne d'ici la fin de l'année.
Et dans ce contexte difficile de faire des projets pour les vacances de février qui se rapprochent, pas la peine d'espérer dévaler les pistes, en tout cas pas de ski alpin. Hein.
Les remontées ne rouvriront pas et de nombreux saisonniers se retrouvent dans une situation catastrophique, pas d'emploi et souvent pas de chômage partiel. Écoutez le reportage de Jean-Luc Boujon à La Plagne en Savoie.
Pour les saisonniers, cette fermeture des remontées mécaniques, c'est tout simplement la double peine. Un, ils n'ont pas de travail et donc pas de revenus. Deux, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas toucher le chômage partiel car ils n'ont pas signé de contrat. C'est le cas de Timothée, 26 ans, qui devait être serveur dans un restaurant d'altitude.
Je devais venir ici sur une promesse d'embauche, entre guillemets. Du coup, non, j'avais pas de contrat. On n'est pas du tout éligible au chômage partiel. On n'a pas de revenus, pas d'indemnité, ni quoi que ce soit.
Même chose pour Sébastien qui vient faire la saison ici depuis plus de 20 ans. Les contrats, lui, les signe en tapant dans la main du patron, d'où la galère absolue cette année.
C'est de la survie, quoi. On réduit toutes les dépenses, on va au moindre coût, on ne consomme pas, quoi, en fait. Quoi. Manger, avoir un habitacle, et puis ça s'arrête là.
40% des 120 000 saisonniers des Alpes ne touchent absolument rien. Pourtant, l'État a promis de verser 400 millions d'euros aux employeurs, qui doivent donc jouer le jeu, estime Antoine Fatiga de la CGT.
Souvent, on a affaire à un employeur de mauvaise foi qui évoque plusieurs excuses pour ne pas mettre le salarié en activité partielle. Alors, il y a celui qui dit, moi, je ne veux pas ouvrir la saison clients, je vois pas pourquoi je m'emmerderais à faire de la paperasse. Il y a celui qui dit, moi l'État, il me dit qu'il faut que je paye personne.
Le syndicat qui demande au ministère du Travail de débloquer la situation en urgence. La Plagne, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et d'ailleurs, Jean Castex va recevoir les élus et les professionnels de la montagne la semaine prochaine. Le Premier ministre promet d'amplifier si besoin les mesures d'accompagnement pour préparer l'avenir. Jean Castex qui a redit hier à l'Assemblée qu'il donnerait toujours la priorité à la santé face aux préoccupations économiques.
5h36 sur Europe 1. Les élections régionales et départementales sont reportées au mois de juin. Le Sénat a donné son accord.
Oui, le vote se tenait hier, mais l'opposition reste sur ses gardes. Pas question que le scrutin intervienne après la présidentielle de 2022. Aurélie Herbemont.
Des élections en juin, dernier délai, le sénateur LR Philippe Bas fait bien passer le message au gouvernement.
Nous ne pouvons que nous opposer à la manipulation du calendrier électoral pour des raisons de convenance personnelle. Tout report à après juin se heurterait à des difficultés politiques et constitutionnelles si on reportait ces élections à une date postérieure à l'élection présidentielle.
Et les sénateurs de dérouler les arguments en faveur du vote avant l'été, nécessité de faire vivre la démocratie malgré le virus, exemple du Portugal qui vient d'organiser sa présidentielle en plein confinement. Mais on ne peut pas dire que la confiance règne entre sénateurs et gouvernement. La ministre Marlène Schiappa est obligée de déminer.
Il n'y a pas de nouvelle date, il n'y a pas de date cachée, il n'y a pas de projet caché du gouvernement en ce qui concerne le calendrier. C'est bien notre intention de faire en sorte que ces élections se tiennent en juin.
J'essaye de me convaincre qu'elle dit vrai, glisse un sénateur. L'opposition attend désormais les modalités concrètes concernant l'organisation, en gage de bonne foi de l'exécutif.
Et les députés prendront leur décision sur le report de ces régionales le 9 février.
On va reparler aujourd'hui de l'affaire Grégory. La justice dira si elle autorise de nouvelles expertises dans le dossier.
Et oui, plus de 36 ans après la mort du petit garçon dans les Vosges, ses parents ont demandé de nouvelles analyses ADN. La cour d'appel de Dijon doit rendre sa décision ce matin. Une décision qui pourrait donner un nouveau souffle à l'enquête, Marion Dubreuil.
Oui, les avocats des époux Villemain veulent tirer profit de chaque avancée scientifique pour réinterroger les scellés du dossier Grégory. Cette fois-ci, il s'agit de comparer les 9 fragments d'ADN isolés sur des courriers anonymes, une seringue et les vêtements du petit garçon avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques grâce à une technique récente. Maître Marie-Christine Chastan-Morand.
On a demandé qu'on puisse faire une recherche avec l'ADN de parentèle. C'est-à-dire qu'au lieu de rechercher des similitudes à 100%, ça permet de rechercher des similitudes à 50%. Donc ça double le spectre de possibilités de matcher.
Cet outil a permis à Thierry Moser, le conseil historique de Jean-Marie Villemain, d'obtenir la résolution d'un autre cold case, le dossier Kulik, du nom de cette jeune femme, violée et tuée en 2002. L'ADN de parentèle avait permis de remonter jusqu'au père d'un des deux suspects. Les parents de Grégory ont également demandé le prélèvement ADN de 37 personnes supplémentaires dans l'entourage et l'argie du petit garçon.
Marion Dubreuil, le frère jumeau de Camille Kouchner, a porté plainte hier pour la première fois contre son beau-père Olivier Duhamel. Sa sœur avait révélé dans son livre La Familia Grande les agressions sexuelles subies à la fin des années 80 quand il avait 14 ans.
C'est donc la dernière nuit en mer pour les premiers navigateurs du Vendée Globe. Au dernier pointage, Charlie Dalin est toujours devant. Il devance Boris Herman et Louis Burton.
Oui, ils sont 5 au total dans un mouchoir de poche. Mais arriver le premier, ça ne veut pas dire gagner car il y aura compensation de temps pour ceux qui ont aidé au sauvetage de Kevin Escoffier début décembre. La direction de course est au centre de toutes les attentions. Corinne Boulou, au Sable d'Olonne pour Europe 1.
Ils sont 4 à se relayer toutes les 8 heures dans une salle du PC course située à quelques mètres du ponton d'honneur qui accueillera bientôt les premiers arrivés. Concentrés pour répondre aux messages du large, attentifs au dernier pointage des positions et aux demandes de plus en plus pressantes sur les estimations d'arrivée. Le directeur de course, Jacques Carès, embarquera en fin d'après-midi pour aller se poster sur la ligne d'arrivée, chrono en main. Primordial quand on sait que la victoire peut se jouer à quelques minutes près. Il en ressent d'ailleurs tout le poids.
À nous, et surtout, de prendre les temps avec la plus grande précision, puisqu'en plus, cette fois-ci, on a quelque chose qui se rajoute en plus, qui n'est pas habituel, c'est la compensation d'heures pour donc 3 concurrents. Ces temps-là, forcément, vont contrarier probablement, ou peut-être pas, mais sans doute le podium réel. Donc, il y a un petit calcul, il y a une mise en place qui, forcément, doit être très bien faite. Et c'est pour ça qu'il faut rester très concentré.
Une fois la ligne franchie, eh bien, il faudra gérer l'entrée au port des voiliers. Et pour une question de marée, eh bien, le chenal leur sera inaccessible ce soir, entre 19h30 et 2h du matin. Décidément, sur cette fin de course, tout est affaire de patience.
Voilà.
Les Sables d'Olonne, Corinne Boulou, Europe 1.
Les premières arrivées, c'est donc ce soir, si tout va bien.
Et on y revient avec Jérôme Lacroix, bien sûr, dans la page des sports tout à l'heure à 6h10. C'était Hélène Zélani pour le journal. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
C'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, mais avec les trotteurs que se disputera ce quintet. Et parmi les 14 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection Christo, le numéro 9, quatrième de cette même épreuve l'an dernier, et qui a été préparé avec minutie pour cet objectif par son entraîneur-driver Michel Lenoir. On lui opposera les numéros 13 Colonel Bond et 11 Black d'Argent, qui ont déjà fait jeu égal en début d'hiver avec Christo, mon favori, sur le même parcours que celui qu'ils emprunteront cet après-midi. Ensuite, méfiez-vous de Blackjack From, le numéro 14, idéalement engagé et pour lequel son propriétaire entraîneur-driver Guillaume Gillot n'a pas hésité à effectuer un très long déplacement depuis la Normandie, mais aussi Alinea, le numéro 12, avec lequel ce sera une nouvelle fois une question de sagesse. Enfin, les numéros 10, Django du Bocage, 4, Diane Winner et 6, Big Boss compléteront ma sélection. Mon pronostic, 9, 13, 11, 14, 12, 10, 4 et 6.
Merci Thierry Léger, tous vos pronostics sont à retrouver sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et j'accueille à présent le premier invité de cette matinale. Bonjour Emmanuel Bernard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous présidez la section bovine de l'association Interbev qui regroupe les producteurs, tous les professionnels de la filière viande. Je voulais qu'on commente avec vous ce matin ces changements de comportement qui sont observés en cette période si particulière avec des restaurants qui sont fermés et beaucoup de Français qui télétravaillent et qui, du coup, font leur repas à la maison. Nouvelles habitudes en matière d'alimentation avec ce chiffre. La consommation de viande globalement en recul, mais la consommation de viande bovine française, elle, est en augmentation sur l'année 2020 de 1,6%. Vous devez vous réjouir que les consommateurs se tournent vers la viande française.
Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, évidemment, dans des conditions particulières, mais effectivement, ça montre quand même que quand on commence de cuisiner chez soi et de consommer chez soi, on a quand même un bon réflexe qui est d'acheter français, quoi.
C'est ça, la principale explication, ce sont ces Français qui ont plus cuisiné cette année.
En fait, ils achètent d'abord par eux-mêmes. Donc, en réalité, on ne leur met pas dans leur assiette, dans une cantine ou quelque part. Et du coup, à partir de là, je pense qu'il y a déjà un réflexe quand même supplémentaire pris par les gens qui cherchent un peu finalement l'origine des produits. Ensuite, on sait aussi que l'offre dans la grande distribution, dans la boucherie traditionnelle, est quand même majoritairement française aussi.
Justement, qui en profite le plus ? Ce sont les artisans bouchers ou ce sont les grandes surfaces ?
Mais je pense qu'il y a les deux. Alors, vous avez les artisans bouchers qui, évidemment, ont regagné aussi du chiffre d'affaires parce que, d'abord, ils avaient, je pense, une clientèle de confiance, quoi. Donc, qui, évidemment, s'est retournée vers eux dès qu'ils ont pu rouvrir, quoi.
Quel type de viande ? Je voyais que, principalement, la viande hachée était extrêmement vendue, notamment en grande surface.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on sait très bien que quand on va dans la restauration, souvent, on a beaucoup de chaînes qui offrent des burgers, des hachés et tout ça. Et du coup, les Français, en rentrant chez eux, ont cuisiné par eux-mêmes un peu des plats qu'ils ont l'habitude de manger. Et du coup, le haché, évidemment, a été finalement un des grands gagnants de cette augmentation, avec là aussi une vraie segmentation dans le haché, quoi.
Plus 40% dans les grandes surfaces pour la viande hachée française et plus 50% en boucherie au moment du premier confinement. C'est assez conséquent. Est-ce que ça veut dire que vous avez compensé ou même plus que compensé la perte que vous avez eue du côté de la restauration puisque les restaurants ont fermé, que vous l'avez compensé avec cette consommation de viande à la maison ?
Alors sur les volumes produits en France, oui, très nettement. Les parts de marché, elles ont été faites en viande française, donc on a compensé en grande partie. Quand on regarde le bilan de l'année 2020, en fait, on a beaucoup moins importé. On a exporté un petit peu moins, mais quand même, les vases communicants étaient quand même là. Et le résultat, c'est la viande française en France qui en sort gagnante quand même, quoi.
On a beaucoup moins importé, ça veut dire que les restaurants, en général la restauration collective, les cantines, les restaurants d'entreprise, etc., utilisent beaucoup plus de viande importée.
Bien sûr. D'ailleurs, on a continué quand même d'importer. Et bien sûr qu'il y a des restaurants, on va dire, qui sont restés ouverts. On le sait très bien. Et il y a l'importation qui est toujours pour aller au moins cher. On le sait par cœur. Le Français, quand il fait ses courses, il regarde l'étiquette. Et le prix bas, évidemment, il ne sera jamais fait en France. On n'a pas des conditions de production qui nous permettent de brader nos animaux.
Changement de comportement, donc très visible. Les Français regardent les étiquettes quand ils achètent pour cuisiner à la maison. En revanche, il y a une autre tendance plus globale, c'est la baisse de la consommation de viande de manière générale, et celle-ci, elle se confirme en 2020, moins 2%. Selon vous, c'est aussi une tendance lourde, le recul de la consommation de viande, c'est une sensibilisation écologique aussi qui prend ?
Effectivement, on a une tendance à la baisse de consommation. Elle est quand même souvent compensée par l'augmentation de la population. On oublie souvent que quand on regarde une consommation individuelle, mais qu'on a une population qui augmente, finalement, on produit autant de viande et on consomme en gros autant de viande. Donc, évidemment, il y a une érosion, on ne peut pas le nier. Peut-être aussi qu'à un moment, l'enjeu de la filière qui est quand même de... On appelle ça monter en gamme, mais qui est d'aller sur des viandes, on va dire, pas que françaises, quoi, label rouge, par exemple, avec une segmentation où là, on sait qu'il faut en manger et surtout en manger de la bonne. Et donc, le côté d'engagement du label, l'intérêt, c'est qu'on a des garanties pour le consommateur, surtout, quoi.
Manger peut-être moins de viande, mais manger mieux, ça, c'est sûr que c'est une tendance aussi. En février, Emmanuel Bernard, vous qui représentez la filière bovine française, en février aurait dû débuter le grand rendez-vous pour votre filière, le Salon de l'agriculture. Son annulation va avoir des conséquences importantes pour les éleveurs, pour les producteurs ?
Enfin, je vous remercie de me donner la parole parce que c'est une occasion d'une fenêtre médiatique très importante pour nous. Notre savoir-faire, la fierté du métier, l'intérêt souvent mis en avant par le progrès, par les évolutions à la fois technologiques, de traçabilité, de segmentation, c'est toujours des moments forts avec les médias, avec tous les responsables et surtout avec le consommateur et le citoyen. Et c'est vrai qu'on est très déçus de ne pas pouvoir avoir ces rencontres. On comprend tout à fait la situation et du coup, on est en recherche aussi là, de trouver encore une fois le lien avec le consommateur parce qu'il est clair que ses attentes sont importantes à entendre et à mettre en place. Et l'inverse, les efforts qui sont faits par la filière doivent être aussi compris. Ça ne se fait pas en 10 minutes ou en un claquement de doigts. Donc tout ça, le salon aurait pu nous aider à faire passer le message. Et du coup, il va nous manquer quelque chose quand même, ce moment convivial et ce moment de partage, quoi.
Écoutez, on va continuer en tout cas de vous donner la parole justement et de continuer d'évoquer ces sujets sur Europe 1 et notamment dans cette tranche du 5-7 où on est aux côtés des producteurs et des agriculteurs chaque matin avec le rendez-vous les doigts dans l'assiette de 5h25. Merci en tout cas Emmanuel Bernard d'avoir été un peu plus longuement avec nous ce matin, président de la section bovine d'Interbev, la filière interprofessionnelle du bétail et des viandes. Très bonne journée à vous.
Merci.
Europe 1.
Il est 5h48 sur Europe 1 et c'est l'heure de continuer d'ailleurs à parcourir la France avec vous Jérôme Lacroix. Où est-ce que vous nous emmenez ce matin ?
Je vous raconte la générosité 2.0. Vous connaissez Sébastien, le site de vente Le Bon Coin.
Bien sûr.
Bon, je vous raconte Le Bon Coin de la solidarité.
Ah, Le Bon Coin de la solidarité. De belles initiatives à suivre dans La France Bouge avec Jérôme Lacroix. À tout de suite.
Europe 1. Sébastien Krebs.
6h10 sur Europe 1, Sanofi à la rescousse de Pfizer-BioNTech pour produire ses vaccins. Confirmation de ce qu'Europe 1 vous annonçait il y a déjà 3 semaines. Coup d'envoi de la production au mois de juillet pour fournir 100 millions de doses d'ici à la fin de l'année. Un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Elysée. On le sait, Emmanuel Macron attend de connaître les effets du couvre-feu et l'évolution du variant anglais avant de prendre une décision sur un éventuel reconfinement. Et puis alors qu'un Français sur deux possède un animal de compagnie, l'Assemblée a donné son feu vert au nouveau certificat de connaissance. Toute personne qui achète un animal devra le signer. Il rappelle les obligations de soins, de vaccination et les coûts liés à l'animal.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Du positif chaque jour avec vous Jérôme Lacroix à travers la France, de bonnes idées et de belles initiatives. Ce matin, l'histoire d'un troc solidaire à grande échelle.
Ça s'appelle TREMA, T-R-E, TREMA, M-M-A. Ça se passe sur Internet et c'est une toute nouvelle plateforme numérique et solidaire lancée lundi par Emmaüs. Et c'est un site qui doit permettre à chacun d'entre nous de faire un geste pour autrui.
Alors, quel est le principe de ce troc ?
L'adresse du site, c'est trema.co. Comme sur Le Bon Coin, comme sur Vinted, des sites que vous connaissez très probablement, vous créez votre annonce pour transmettre un objet dont vous n'avez pas ou plus l'utilité. Sauf que là, vous n'êtes pas vraiment vendeur, vous êtes donneur. Je vous explique. Quand vous avez publié l'annonce, elle est prise en charge par une équipe de modérateurs des salariés en réinsertion. Ces salariés transfèrent ensuite votre annonce sur le site de e-commerce d'Emmaüs, label Emmaüs, qui existe depuis 2016. C'est là que les internautes vont venir acheter votre bien et avec l'argent de la vente, des projets solidaires sont financés. Projets que vous aurez préalablement choisi au moment de la création de votre annonce. Alors pour l'instant, 4 projets ont été retenus par Emmaüs, parmi lesquels une ferme près de Bayonne, reconvertie en lieu d'accompagnement pour les femmes en fin de peine de prison.
Donc très concrètement, ça veut dire que moi particulier, je mets en ligne une annonce, mais voilà. Je ne touche pas l'argent quand le produit est vendu.
Non, c'est exactement ça, sauf que vous pouvez demander un reçu fiscal portant sur 60% du montant de la vente. Avec tout cela, Emmaüs s'adapte à son époque, hein, parce que le but de cette nouvelle plateforme Tréma est ce marketing malin de Vinted ou de Boncoin de la solidarité, c'est pour attirer un public jeune, connecté, habitué à vendre sur Internet, mais qui n'a pas le réflexe Emmaüs. Et c'est aussi un moyen de disposer de dons de meilleure qualité. Une baisse est constatée ces dernières années, dans un monde où on peut tout vendre depuis son canapé, mais dans lequel, malgré tout, souligne-t-on chez Emmaüs, le réflexe simple du don n'a pas encore disparu.
Oui, jusque-là, on allait chez Emmaüs avec des gros sacs un peu lourds. Là, on pourra le faire directement du coup de chez soi. C'est le moment de faire du rangement dans
aussi,
ces périodes
voilà,
de...
Ça peut être aussi cette vertu-là.
Reconfinement éventuel, il y a encore du rangement à faire à la maison, vous allez trouver. Donc trema.co, c'est ça l'adresse.
C'est tout à fait ça.
À retrouver sur Internet. Merci Jérôme Lacroix. Et à 5h53, nous explorons les réseaux sociaux avec vous, Paul Lassalle.
Oui, c'est une polémique qui n'a cessé d'enfler sur les réseaux sociaux depuis près d'une semaine. Plusieurs comptes Twitter tenus par des militantes féministes ont été bloqués suite à cette question. Comment faire pour que les hommes cessent de violer ? Alors à la base, derrière cette interrogation se trouve la militante féministe et antiraciste prénommée Mélusine. Et il y a une semaine, elle écrit donc ces mots avant que son compte ne soit supprimé une première fois ce week-end, puis une nouvelle fois ce lundi. Alors en soutien à ces suspensions consécutives, de nombreuses militantes féministes comme Alice Coffin ou Caroline Dehas ont elles aussi relayé cette question pour soutenir Mélusine. Qui, elle, répond « Je n'ai pas eu l'impression d'écrire quelque chose de choquant ou de radical. Pour moi, il s'agissait d'une manière de réagir à la vague récente de témoignages « MeToo inceste » et « MeToo gay ». Et après avoir jugé que ces mots allaient à l'encontre de sa politique et de ses règles, Twitter a enfin réagi hier, reconnaissant même une erreur. Le réseau social a reconnu qu'il existait une faille dans son système de modération. Il peut arriver que le contexte apporté habituellement à nos équipes manque et nous amène à commettre des erreurs. C'est le cas ici, dit Twitter. Mais des années après MeToo, après la libération récente de la parole autour de l'inceste et des agressions sexuelles, on peut se demander ce matin comment un réseau social si puissant et qui a aussi permis et ouvert la porte à ces témoignages et à cette prise de parole. Comment ce réseau social peut-il encore censurer ces mots ? C'est la question que se posent encore ce matin beaucoup d'internautes après cette réaction de Twitter qu'ils jugent pas forcément convaincante. Il serait peut-être temps d'évoluer, disent-ils.
La question était comment faire pour
que les hommes cessent de violer.
C'est le mot violer qui peut-être avait été détecté par les machines, les robots de modération. Dans Twitter, on n'a pas donné particulièrement d'explication.
Pas d'explication précise.
À la suppression de ces comptes, ils sont revenus en arrière et c'est bien ça l'important. Merci Paul Lassalle, 6h05. C'est un numéro spécial dont de la raconte que vous allez retrouver tout à l'heure à 14h. Christophe Ondelat vous raconte l'histoire des Restos du Cœur créés ici sur Europe 1 en 1985 avec les archives sonores de l'époque. Coluche dans le studio d'Europe 1 qui lance son premier appel, émission en partenariat avec le magazine Légende dont nous avions parlé dans le 5-7 avec son rédacteur en chef et son directeur plutôt de la publication Eric Fotorino qui était mon invité il y a quelques jours. On de la raconte à 14h et en podcast, vous retrouvez déjà cette histoire sur europe1.fr dès ce matin.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète avec vous chaque matin et vous vouliez aujourd'hui nous parler de l'un des impacts de l'activité humaine, un impact finalement assez peu médiatisé, l'affaissement des sols.
En effet, la revue Science vient de nous alerter sur le fait que d'ici 2040, 19% de la population mondiale sera affectée par l'affaissement des sols. Comprenez par là, des sols qui littéralement s'écroulent. On parle de 635 millions de personnes qui seraient concernées par ce phénomène déjà en cours. Certaines zones se tassent en effet d'un centimètre par an. À Téhéran ou Jakarta, c'est un affaissement même de 25 cm qui est constaté annuellement. L'exemple le plus parlant est sans aucun doute celui de la ville de Berezniki en Russie. Cette ville, qui se trouvait proche d'une mine de sel surexploitée, s'est vue trouée de part en part comme un gruyère depuis les années 80. Tous les habitants ont d'ailleurs été contraints de déserter les lieux car les bâtiments se sont écroulés.
Mais pourquoi les sols s'affaissent au juste ?
Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Ce phénomène est directement lié à la pression que nous y exerçons dessus. Nous sommes devenus de tels extractivistes, nous prélevons toujours plus pour façonner nos villes toujours plus denses, construire toutes nos infrastructures toujours plus lourdes, les routes, les buildings, etc. La matière que nous empilons sur la croûte terrestre pèse tout simplement de plus en plus lourd et fait pression. Ce qui rentre en ligne de compte aussi, c'est le pompage des nappes phréatiques et des aquifères qui conduisent progressivement à la détérioration de la structure des sols. L'affaissement est d'autant plus inquiétant que la montée des eaux s'accentue elle aussi, un vrai danger pour des endroits comme les Pays-Bas où 25% du territoire est sous le niveau de l'eau. Tout comme la Californie d'ailleurs, en proie à la sécheresse depuis 40 ans, la situation y est alarmante car les aqueducs s'étalent sur des kilomètres et sont menacés par l'enfoncement des sols. Les experts en risque géologique ont ciblé jusqu'à 200 sites à risque dans le monde en établissant un indice d'affaissement dans 34 pays.
Fanny, est-ce que la solution serait de limiter la pression démographique?
Eh bien oui, c'est tout l'enjeu. Alors que la moitié de l'humanité s'entasse sur à peine 1% de la surface du globe, nous nous rendons compte aujourd'hui que la pression de nos villes est extrêmement concentrée sur de tout petits espaces. D'après les résultats de ces études géologiques, la vulnérabilité va fortement augmenter dans des zones comme l'Indonésie, l'Israël, les Pays-Bas, la Chine ou encore le Japon, qui encourent des risques majeurs et gagneront à anticiper en répartissant mieux leur population sur leur territoire.
Merci Fanny. Agostini, notre planète chaque matin avec vous. À demain.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous tous sur Europe 1. Si vous allumez la radio au réveil, nous sommes le mercredi 27 janvier. Il est presque 6h et le 5-7 continue. Je voulais vous faire entendre ce témoignage poignant, bouleversant, qui dit beaucoup finalement du monde dans lequel nous vivons depuis maintenant quelques mois. Je voulais vous faire réentendre un extrait de cette interview de Patrick Cohen, diffusée hier midi sur Europe 1. Le récit de Stéphanie Bataille. Il y a quelques jours, elle a perdu son père, décédé du Covid. Il est mort seul à l'hôpital, sans avoir pu revoir ses enfants. Visite interdite.
Quand on dit « on aimerait voir notre père », on vous répond, et je dois le dire, c'est vrai, non, c'est non. Ça n'existe nulle part. Et là, il nous demandait « faites-moi sortir, je vais crever. Sortez-moi de là, je vais crever. » Non, ça ne va pas du tout. C'est urgent de faire quelque chose. C'est de l'inhumanité.
La colère de Stéphanie Bataille. L'hôpital est-il devenu inhumain ? On va en parler avec un professeur aujourd'hui qui est confronté tous les jours à ces situations entre patients et familles. Le professeur Jean-François Timsit. Il dirige le service de réanimation de l'hôpital Bichat. Il sera mon invité tout à l'heure à 6h40. Tous vos rendez-vous habituels et puis bien sûr notre petit moment musical du matin. Elle s'appelait les Destiny's Child à la fin des années 90 avec une certaine Beyoncé à leur tête et c'est l'histoire de la partition du jour tout à l'heure à 6h25 avec Omblin Roche. On retrouve Laurent Cabrol pour la météo de ce mercredi.
Et le temps change, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que ce changement s'opérait de manière assez dangereuse parce que la douceur arrive, ou une relative douceur arrive par l'Atlantique et avec de la pluie, et quand la pluie se promène sur des sols glacés, ça donne des verglas sur la Lorraine, le Dijonais, l'Auvergne, des départements comme la Meuse, l'Ardenne et la Haute-Marne sont en vigilance, et puis dans toutes ces contrées, fort heureusement, la douceur va l'emporter dans l'après-midi et tous ces phénomènes vont disparaître. En Alsace, en Franche-Comté, en région Rhône-Alpes, c'est de la neige, et une neige assez soutenue qui va se manifester toute la journée, notamment sur les Alpes et même les vallées alpines. Dans le sud-ouest, le Poitou-Charentes, le Limousin, la Loire-Atlantique et la Bretagne, ce sera de la pluie. Et puis si vous êtes en Normandie, dans le nord, la région parisienne, la vallée de la Loire, le Berry et la Champagne, prévoyez un temps nuageux avec des bruines. Sur Paris, il ne pleuvra pas grand-chose, un temps couvert une grande partie de la journée. Et peut-être 3 gouttes. Les températures ce matin, elles se situent entre moins 1 à Besançon et plus 10 degrés à Brest, en passant par 2 à Paris et 5 à Toulouse.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7.